Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Christine Bouillot. Bonjour Christine, journaliste
bonjour Valérie,
à Sud
bonjour.
Radio, correspondante à Toulouse. Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône. Bonjour, vous êtes vice-président
bonjour.
Des Républicains. Benjamin Lucas, coordinateur national de Génération.
Bonjour.
Bonjour. Et Patricia Balm, présidente fondatrice de PBCom International et vous êtes communicante.
Bonjour
voilà,
Valérie.
Spécialiste en communication politique. Alors confinement, il est urgent d'attendre. Macron a-t-il raison de temporiser? On a un petit peu de mal à s'y retrouver avec un Delfrécy très alarmiste, monsieur Delfrécy, professeur Delfrécy très alarmiste avant-hier et qui ce matin à la une de Libé dit on n'est pas une semaine près. Allez, on va essayer d'y comprendre quelque chose. Après les retards de Sanofi, Pasteur abandonne son projet de vaccin, l'échec français dans la course au vaccin. Et puis rapport Oxfam, faut-il taxer les plus riches pour financer la facture du coronavirus? On va essayer de traiter tous ces sujets. Commençons par vos coups de cœur, vos coups de gueule. Patricia, on va commencer avec vous, Patricia Balm.
Alors, moi, c'est un coup de gueule, mais ouais. C'est un coup de gueule général sur un sujet très délicat. Ouais. Hier, en effet, on a appris une nouvelle affaire d'abus sexuels concernant Gérard Louvain et son mari, Daniel Moine. Je commencerai par dire qu'à ce stade, ils bénéficient tous deux de la présomption d'innocence. Je n'ai pas à juger l'affaire, je ne la connais pas. En revanche, ce qui me dérange dans ces affaires, et encore une fois, merci à Camille Kouchner d'avoir aidé à libérer la parole, c'est que les gens qui sont dans les médias, qui sont dans ce système médiatique, pour la plupart, entendent parler de ces affaires et savent que les victimes ne portent pas plainte. Il faut respecter ce droit des victimes qui ne veulent pas porter plainte. Mmh. En revanche, lorsqu'il y a des bruits qui courent, lorsque l'on sait, et pour Gérard Louvain, on a entendu ça il y a bien des années, moi-même je l'ai entendu et je le dis aujourd'hui, eh bien, il faut simplement qu'il y ait une précaution par rapport à ces gens qui sont mis en lumière sur les plateaux télé. Mmh. Je prends l'exemple d'Olivier Duhamel. Mmh. Olivier Duhamel, Marie-France Pisier, l'a dit à tout Paris à l'époque, quand elle l'a appris. Mmh. Il a continué d'être honoré par les médias, d'être nommé président du siècle, etc., etc. Donc je dis que lorsque les journalistes, les médias ont un doute sur une personnalité, eh bien, il faut peut-être ne plus les mettre dans la lumière. On ne peut pas faire ça, parce que qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? On devient complice, c'est un silence complice, c'est même un silence coupable. Et je pense que c'est aux journalistes et aux médias d'être prudents quand on entend ce type d'affaires. Et on ne peut pas continuer de mettre en lumière des gens sur lesquels, je dis bien, on a des doutes, et je reparle de la présomption d'innocence. Et c'est cela qui me scandalise. Et j'ai entendu les avocats hier de Gérard Louvain, j'ai été scandalisée, parce que finalement, les victimes deviennent coupables, alors que il y a une présomption d'innocence, mais la parole des victimes doit être prise en compte. Elle ne peut pas être remise en question. Donc j'ai été scandalisée par ce que j'ai entendu. Et je terminerai sur une chose. L'argument des avocats d'hier, c'était « c'est une question d'argent, il a demandé de l'argent ». Eh bien, dans le cas d'abus...
Et c'est un jeune homme drogué.
Et c'est un jeune homme drogué. Alors, dans le cas des abus sexuels, on dit toujours, eh bien, les coupables doivent payer. Ou même ceux qui ont la présomption d'innocence, s'ils sont avérés coupables, ils doivent payer. Mais payer, c'est aussi peut-être donner de l'argent pour ceux qui sont riches à des gens dont la vie a été brisée depuis 30 ans. Donc, les avocats, là, se sont vraiment emmêlés les pinceaux. Ils ont été très mauvais, je dirais, limite abject, vis-à-vis de la victime.
Oui. Voilà. En parlant de chantage, alors après, effectivement, il y aura sûrement, on va voir, ils ont annoncé qu'une plainte serait déposée, mais c'est vrai que ce sont des sujets compliqués, que parfois les victimes, quand il y a la présomption d'innocence, quand il y a la prescription, la parole se libère comme ça dans les médias. C'est un sujet compliqué.
Et moi, je terminerai juste en disant une chose, je pose la question à vos invités et aux auditeurs. Silence coupable, silence complice. Voilà.
Ouais. Oui, moi je partage votre gueule. Je crois qu'être invité de plateaux télévisés, de médias et avoir son nom de serviette dans tout Paris n'est pas un droit. Et donc ça ne remet pas en cause de la présomption d'innocence que de dire sur une personnalité si on a un doute ou qu'on croit quelque chose ou qu'on entend des bruits, etc. D'avoir une espèce de principe de précaution médiatique. Je pense que de ce point de vue-là, votre coup de gueule est salutaire et que c'est vrai que le côté positif de tout ce qui se passe en ce moment, c'est que la peur est en train de changer de camp et que désormais ce sont les agresseurs, les violeurs qui doivent avoir peur. Et je crois que c'est très positif positif pour notre société.
Patricia, une auditrice vous dit, vous étiez au courant, madame.
Je l'ai entendu.
Il y avait des rumeurs.
Il y avait des rumeurs. Mais dans les années 85-90.
Il y a eu d'ailleurs, et les avocats l'ont évoqué, une instruction qui a été ouverte pour des faits sur leur fils adoptif qui a donné lieu à un non-lieu, qui n'a pas été poursuivi. Donc il y a eu des
Il y a eu des choses.
Alors, ce que dit Patricia Balm n'est pas de dénoncer,
pas du
parce
tout.
Qu'il faut respecter la parole de la victime qui ne souhaite pas forcément parler, mais que ceux qui sont aux responsabilités ne mettent pas en lumière. Ouais. Ces individus, Christine.
Je voudrais répondre à Patricia parce que sur la notion des journalistes qui doivent, il y a un précédent quand même sur lequel il faut se poser tranquillement et pas avancer comme ça en se posant, comme dirait Emmanuel Macron, en procureur. Il y a l'affaire Baudis, c'est un précédent qui est quand même gravissime et la rumeur malheureusement fait des dégâts sur toute une famille. Donc je pense que la difficulté dans ces dossiers-là, c'est la libération de la parole et c'est surtout les lieux d'écoute des victimes. Toutes ces victimes dans l'affaire, alors vous parlez de l'affaire Louvain, mais cette victime, elle est face à quelqu'un qui est tout puissant. Ça se retrouve à chaque fois, hein, dans chacun des schémas des agressions. C'est ça qui est difficile. Donc ces victimes-là, la libération de la parole aujourd'hui est nécessaire et permet justement cette écoute. C'est que dans ces époques-là, on avait du mal en tant que victime à pousser une porte et dire j'ai été victime de quelqu'un qui est effectivement tout puissant sur la place de Paris, de Toulouse, de Lyon, de Marseille, de ce que vous voulez. Et donc la difficulté, c'est effectivement d'entendre ces paroles-là et que de manière posée et sereine, on puisse enquêter. Moi, je pense que les journalistes ont effectivement un rôle, mais c'est très compliqué. N'oubliez jamais les dégâts et les ravages. Moi, j'ai vécu ça. Je peux vous dire qu'en interne, je peux vous dire que l'affaire Baudis, elle doit nous servir, de Dominique Baudis, d'alerte sur la façon dont nous, les médias, on doit se poser sur des questions comme celle-là.
Mais je pense que ce sont plus
sur la rumeur, je parle.
Oui, ce sont plus les responsables politiques qui doivent... Pas politiques, les responsables médiatiques. Plus que des journalistes, vous ne pouvez rien si la victime ne veut pas parler. Encore une fois, Laurence vous relance, notre auditrice, en disant pourquoi vous ne l'avez pas dit si tel était le cas. Le but n'est pas de dénoncer forcément quand une victime ne veut pas parler, ne souhaite pas porter plainte.
Je vais répondre tout de suite à votre auditrice. Moi, je n'aime pas la délation, le principe de la délation. Mais je ne suis pas non plus pour la complicité médiatique par rapport aux puissants. Et c'est ça qui me dérange. On en a tous entendu parler à l'époque. Moi, j'étais journaliste, j'étais dans les médias, j'en ai entendu parler. Mais je n'allais pas aller dénoncer. Et je suis contre. Et l'affaire Outreau, comme l'affaire Baudis, que vous avez rappelé avec beaucoup de justesse, on ne peut pas jeter l'opprobre sur quelqu'un sans preuve. Et aujourd'hui, il existe la présomption d'innocence.
Absolument. Alors, Gilles Platret.
Le débat a été bien posé par l'ensemble des intervenants. Je crois que il faut être effectivement prudent sur ce que la rumeur peut avoir de carnassière, parce qu'elle peut détruire des gens qui sont complètement innocents. Et le vrai problème dans tout ça, c'est en réalité l'accompagnement des victimes. On a encore un vrai souci, je le vois dans d'autres domaines, notamment en matière de violence intrafamiliale, pour libérer la parole de celles et ceux, alors généralement de celles d'ailleurs à 96% dans le cas des violences intrafamiliales, qui sont les victimes des agissements de leurs conjoints. Et notre enjeu, c'est précisément la libération de la parole de la victime. Parce que vous le savez bien, et d'ailleurs l'affaire Duhamel le montre bien, vous pouvez avoir des certitudes, s'il n'y a pas de dépôt de plainte, c'est très compliqué pour la justice de faire son travail. Et on voit bien que finalement, depuis toutes ces années, la parole n'est pas encore complètement libérée. Donc c'est vrai que la médiatisation de certaines affaires le permet sans doute. Je dirais aussi simplement qu'il faut une chose toute simple, c'est que quand vous décidez de porter plainte, vous vous retrouvez en réalité tout seul par rapport à une énorme responsabilité. Et c'est parfois ce qui empêche les victimes d'aller jusqu'au commissariat pour déposer plainte. Donc il faut un accompagnement, ça se prépare, ça se travaille. Il faut créer des réseaux pour que dès le dépôt de plainte, d'abord il faut une écoute, des numéros d'urgence, et dès le dépôt de plainte, qu'on puisse accompagner la victime dans toutes ses démarches. Si vous n'avez pas ça, alors vous aurez des victimes qui n'oseront jamais parler, dans tout le type d'affaires d'ailleurs. Et je crois que c'est vraiment ce qui doit déterminer l'avancée de la justice en la matière, l'accompagnement des victimes.
Moi, j'ajouterais juste une chose, Valérie, pardon. Il y a aussi un devoir de solidarité vis-à-vis des victimes. Oui. Lorsque l'on entend certains bruits, que l'on continue d'inviter certains individus sur des plateaux télé, j'en suis écœurée et j'en vois encore certains sur des plateaux télé, et j'espère qu'un jour la vérité éclatera pour cela.
Merci. On se retrouve dans un tout petit instant. On va évidemment parler du cafouillage à la tête du gouvernement, puis on continue notre tour de table des autres infos qui ont retenu votre attention. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble dans le studio de Sud Radio pour commenter l'actualité avec vous. 0826 300 300, on va évidemment parler de ce supplice de la goutte d'eau pour savoir si nous serons reconfinés ou non. On en parle avec vous. Et puis, petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention avec les débatteurs du jour, Patricia Balme, Benjamin Lucas, Gilles Platret et Christine Bouillot. Christine, c'est un coup de cœur.
Oui, petit coup de cœur. Alors, je voulais savoir si du côté de Chalon-sur-Saône, c'était la même chose. C'est une histoire de bon sens, en fait. Depuis plusieurs semaines que les restaurants sont fermés, on sait qu'il y a des routiers qui sont des restos routiers qui sont réservés aux chauffeurs routiers. Depuis le 15 janvier, il est désormais possible pour les restaurateurs qui en font la demande auprès des préfets avec les chambres de commerce et d'industrie, eh bien d'ouvrir également leurs salles de restaurant avec des mesures sanitaires très strictes, et bien sûr, mais d'ouvrir pour tous les ouvriers, toutes les personnes qui travaillent en extérieur. Ça comprend les personnes de chantier, les commerciaux, etc. Puisqu'aujourd'hui, le quotidien de ces gens qui sillonnent tout le pays, pour déjeuner le midi et le soir avec un confinement à 18h, ça reste le bon vieux sandwich dans le froid, dans la camionnette, dans les véhicules et dans les chambres d'hôtel quand les hôtels sont ouverts, voilà. Ouais. Et donc, enfin, une idée de bon sens, il est permis, alors il faut simplement s'inscrire auprès du restaurateur qui lui s'engage aussi à respecter toutes les consignes sanitaires, mais il est désormais possible d'ouvrir ces restaurants pour ce qu'on appelle les travailleurs extérieurs. Ouais. Donc, c'est une idée comme une autre. J'ai eu la chance d'assister à la réouverture d'un restaurant la semaine dernière du côté de l'Ariège. Je peux vous dire que tout le monde était comme un soir de réveillon, tout content de refaire à manger, tout content d'accueillir des clients dans la salle et surtout des travailleurs qui d'habitude mangent dans le froid des sandwichs depuis des semaines avec tout ce que ça comporte. Hein. Vous pouvez pas aller aux toilettes. Enfin, voilà, c'est quand même très inconfortable. Des mesures, on va dire, de bon sens pour tout le monde. Et ça met un peu de fonctionnement classique, puisque ce restaurateur a par exemple réembauché quelqu'un dès cette semaine pour pouvoir faire face à la demande.
Oui. Voilà. Gilles Platret, chez vous, c'est pareil ?
Pas à ma connaissance sur Chalon. En revanche, j'ai souvenir, il y a quelques semaines de ça, je crois qu'on était au mois d'octobre, fin octobre, d'un maire d'une commune du Doubs, se faire rendre ma part, qui avait fait la même chose en ouvrant sa salle des fêtes. Et le préfet, aux ordres servilement du gouvernement, avait fait fermer l'endroit parce que ça n'était pas sanitaire, selon lui. Donc on voit bien quand même que c'est un combat de tous les jours. En tout cas, je retiens l'initiative que vous
venez
de...
C'est un décret du 15 janvier, Gilles.
Donc, très bien, voilà. Ça veut dire que concrètement, il faut qu'on le fasse connaître et essayer de voir si certains restaurateurs seraient prêts à le faire. Enfin, on a un vrai sujet, on le sait là-dessus. Hein. D'abord, vous l'avez très bien dit, avant même de penser à l'appât du gain, c'est le plaisir de retravailler pour des femmes et des hommes dont on sait que les métiers sont difficiles, très prenants, mais qui en sont privés depuis des mois, et c'est une galère personnelle pas possible. Et c'est vrai que le fait même de refaire à manger pour les autres, c'est déjà quelque chose d'hyper gratifiant. Voilà. Donc, mais je retiens la proposition et on va regarder si on peut la faire mûrir dans la belle ville de Chalon.
Mais je vois pas enfin, on va pas refaire tout le débat là-dessus, mais je vois pas la cohérence. Je trouve que c'est très bien, mais dans ce cas-là, on va vous dire et pourquoi pas les petits bistrots et pourquoi pas. Enfin, il y a un principe d'égalité. Qui n'est pas très cohérent par rapport à la situation sanitaire, mais il y a toujours cette question du sanitaire et de l'économie.
Alors,
qui entre en jeu.
Au niveau fonctionnement, les contraintes au niveau du restaurant sont quand même relativement très contraignantes. Hein. Ouais. C'est 4 personnes par table par entreprise et pas plus. C'est 2 mètres entre chaque table, enfin entre chaque chaise tirée, c'est-à-dire quand vous êtes assis, donc ça réduit quand même la place. Et puis derrière, si vous ne pouvez pas séparer les gens de la même entreprise, il faut mettre des plexis entre chaque convive, hein, si vous les mettez dans des boîtes en plexis. Mais je dirais que ce qui était intéressant, c'est effectivement ce que disait Gilles, c'est que les restaurateurs sont contents de retravailler et que les salariés qui vivent à l'extérieur sont quand même juste contents de se poser une heure dans un endroit chaud et d'avoir un repas chaud et de repartir. Bien parce que moi, j'ai rencontré des gens, ils étaient à 700 km de leur entreprise. Le midi, c'est sandwich dans le froid et retour dans l'autre sens sans pouvoir se poser.
Bon, on ne va pas refaire le débat, mais alors Benjamin Lucas, votre coup de gueule ou coup de cœur.
Oui, souvenez-vous, la semaine dernière, la majorité refusait aux jeunes de mettre fin à une discrimination qui est incompréhensible, qui veut que les jeunes de moins de 25 ans n'ont pas le droit au revenu de solidarité active, le RSA. Mais conscient qu'il y a un problème dans la jeunesse aujourd'hui, on le voit, les jeunes sont des victimes importantes de cette crise, victimes sociales, victimes psychologiques de cette crise. La proposition sortie du chapeau hier par Stanislas Guérini de La République En Marche, c'est de proposer un prêt. C'est-à-dire, à des jeunes qui n'ont droit finalement à rien, on propose de faire de la dette. Et quand on nous explique tout le temps que le problème fondamental de nos sociétés et de nos économies, c'est la dette publique, là, on veut créer et générer de la dette privée. Je crois qu'il y a une forme d'indécence dans cette proposition, puisqu'on veut endetter les jeunes. Je crois que c'est pas les jeunes, du coup, en faire des individus redevables à la société, puisqu'ils passeraient des années à rembourser une dette, alors que je crois que c'est la société qui est aujourd'hui redevable aux jeunes, parce qu'une société, elle ne peut pas vivre sans une jeunesse qui conquiert son autonomie, sa liberté, qui peut se projeter dans l'avenir. C'est la raison pour laquelle nous proposons quelque chose de plus simple, de plus clair, qui est le revenu universel d'existence, dont la première étape concernerait les jeunes, justement pour les accompagner dans la conquête de leur dignité, de leur autonomie, de leur liberté. Je crois que c'est une fausse bonne idée, et qu'en tout cas offrir, interrogeons-nous quand même là-dessus, offrir comme modèle à la jeunesse de ce pays l'idée qu'on va l'endetter pour construire sa vie dans un moment où elle est victime d'une crise totale, sanitaire, sociale, économique, écologique, je crois que c'est un non-sens.
Oui. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, parce que nous sommes dans une situation particulière qui est celle de cette pandémie.
De cette précarité qui touche les plus jeunes.
Ajouter au pire encore du pire. Et effectivement, rembourser toute sa vie, c'est très compliqué. Vous savez, aux États-Unis, les jeunes empruntent parfois pour payer leurs études qui sont très, très, dont le coût très est élevé. Très élevé aux États-Unis. Et ils mettent parfois des années à rembourser. Et moi, je pense qu'il faut au contraire un revenu de solidarité pour les jeunes dès le départ de leurs études.
Qu'aujourd'hui, vous avez quand même un nombre de jeunes considérables qui renoncent à leurs études parce qu'ils ne peuvent pas cumuler le boulot et les études. Or, on devrait pouvoir considérer qu'on a la société dans son ensemble a intérêt à ce que la jeunesse puisse se former, puisse apprendre dans de bonnes conditions. Bien c'est dans l'intérêt de tous.
Gilles Platret, c'est un coup de gueule qui va nous amener sur notre sujet Covid, pandémie.
Oui, je travaille pour faire la transition de l'émission, Valérie.
Oui, on y est très sensible.
En réalité, depuis le départ, c'est quelque chose qui me chagrine. C'est pas lié directement à l'actualité la plus chaude, même si on va arriver très vite sur les questions de reconfinement. C'est tout simplement cette capacité que le président de la République, pour sortir de la crise des Gilets jaunes, a eu d'organiser un grand débat national. Et que depuis le début de la crise épidémique, on n'a jamais demandé leur avis aux Français. À aucun moment, même avec des moyens dématérialisés, parce qu'on sait le faire aujourd'hui à distance, on a organisé une consultation citoyenne pour savoir ce que les gens pensaient réellement des mesures qui leur étaient appliquées et qui, bien plus que toutes les autres depuis des décennies, ont fondamentalement changé leur vie et vont continuer à changer leur vie. Donc c'est un coup de gueule en fait pour la démocratie. Quand il s'agit pour Monsieur Macron de se redorer le blason, on fait un grand débat national qui occupe les chaînes. Et là, finalement, on consulte un petit peu le Parlement. Et encore, je pense que les oppositions ne seraient pas forcément à crier victoire si on leur demandait ce qu'elles pensaient vraiment de la consultation qu'il aurait faite. Et pour autant, je pense que le peuple français doit, lui, être consulté.
On est en train de changer. Mais sur quoi, par exemple, qu'est-ce que vous voudriez?
Mais surtout, est-ce qu'il faut reconfiner? Moi, je suis quand même.
Moi, je n'en sais rien. Enfin, je n'estime pas.
Ah oui, bah écoutez, moi, j'en ai marre.
La compétence pour le dire.
Valérie, j'en ai marre qu'un groupe de médecins décide pour ma vie. Voilà. C'est aussi simple que ça.
Je préfère que ce soit des médecins que moi.
Des politiques.
Ou que moi.
Eh ben, moi, je suis pas d'accord avec vous, Valérie. Je suis désolé, ça n'est pas... Alors, même si j'ai évidemment confiance dans les médecins, la question n'est pas là, je ne fais pas un procès contre une corporation dont on a besoin. Mais aujourd'hui, l'avenir du pays est dans la main du corps médical. Eh bien, ce n'est pas normal. Il y a un moment donné où la politique doit reprendre ses droits. La politique, c'est l'expression de la volonté générale.
C'est ce qui est
le
temps.
Peuple n'est jamais consulté sur ce qui se
passe.
C'est comme le gouvernement, le président de la République qui prennent les décisions, là, en
qui
l'occurrence.
Ont été élus,
moi qui ai plus de... Je partage l'idée qu'il faut plus de transparence, qu'il faut un débat qui apaise les Français et donc dans lequel toutes les données sont accessibles, dans lequel le Parlement a un rôle.
Moi, je suis pour que le Parlement valide. Sur le variant anglais, on les a pas, on les aura aujourd'hui.
Mais je suis pour que le Parlement vote et pas un conseil de défense sanitaire qui correspond à rien dans la Constitution. En revanche, par contre, moi, ça me rassure plutôt de savoir que l'avis du politique est éclairé par un avis scientifique de médecin. Parce que moi, je suis pas spécialiste du tout des pandémies.
Il est sacrément bien
de la santé. Je préfère faire confiance à des médecins pour ma santé.
Je suis d'accord. Faire attention à ce qu'on dit. Il faut que les médecins, juste une dernière chose, est-ce qu'il faut que les médecins s'expriment sans arrêt et en plus avec des opinions contradictoires? Est-ce qu'il vaut mieux pas que les médecins fassent leur travail auprès du gouvernement, auprès du président
mais
de la République,
dans les médias.
Et que ce soit... Voilà, exactement.
On va y revenir. D'accord. Gilles Platré, je vous redonne la parole dès le retour de la pub. Restez avec nous, 0826-300-300. Appelez-nous pour réagir.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, nous commentons l'actualité donc un peu cacophonique du gouvernement. Il est urgent d'attendre. En gros, Emmanuel Macron n'interviendra pas demain, après-demain soir, comme c'était a priori annoncé. On a eu le professeur Delfraissy qui était sur BFM TV qui disait la situation est grave, attention, c'est urgent. Et puis ce matin dans Libé, non, il n'y a pas d'urgence. Alors, vous évoquiez, j'aimerais bien qu'on continue un petit peu sur votre sujet, Gilles Platré, qu'on consulte les Français. Alors moi, je vois sur la page Facebook, on n'a pas 66 millions de procureurs, on a 66 millions de médecins. Tout le monde a un avis. On a une auditrice, là, j'ai perdu le message, qui nous dit, mais pourquoi on ne parle pas du vaccin nasal et celui-là, et on ne parle pas des traitements, et il y a ça qui marche, etc. Moi, ça me fait un peu peur, quand même. Non ?
Je ne sais pas s'il faut en avoir peur. Moi, je voudrais juste alerter sur quelque chose qui me paraît est en train de rentrer comme ça tout doucement dans les esprits. Le fait que, finalement, en temps épidémique, la démocratie serait un truc un peu à mettre à l'arrière-boutique. Je vais prendre un exemple. Alors, on pourra m'accuser de ce qui peut me concerner, moi, dans mes combats électoraux à venir. La question des élections. Les autres pays trouvent le moyen de voter. Et nous, on a quand même, en France, on touche le pompon en se demandant si au mois de juin, on va pouvoir organiser la tenue de bureaux de vote pour les départementales et les régionales. Ouais. Franchement, à un moment donné, il faut quand même qu'on se pose des questions. On a besoin de démocratie dans ce pays. Moi, je évidemment qu'il faut un gouvernement pour gouverner. Je dis simplement que la crise épidémique est en train de changer nos vies comme personne d'autre ne l'a fait depuis des décennies et des décennies.
Mais
et c'est jamais sans aucune consultation des Français. Qu'il soit procureur, Valérie, qu'il soit médecin, peu importe. Oui, tout le monde a un avis et tout le monde a envie de le donner. Or, personne ne recueille cet avis.
Est-ce que c'est ça la démocratie ?
Personne ne recueille cet avis.
Mais est-ce que c'est ça la démocratie ? Lucas évoquait, on a voté, qu'on soit content ou non de nos dirigeants. Il y a un vote, on a des députés qui sont censés nous représenter. On a élu un président de la République qui a composé un gouvernement. Il y a un conseil scientifique de médecins, a priori.
Qui n'a aucune légitimité.
Mais pourquoi ils n'ont aucune légitimité ?
Le conseil scientifique n'a jamais été élu d'une quelconque manière.
Non,
il ne prend pas de décision.
Il ne prend pas de décision non plus.
Le président, oui, le Parlement, oui, monsieur le maire.
Non, mais je n'ai pas dit ça. Mais ce sont des médecins qui ont été choisis pour donner un avis scientifique. Comment le politique peut prendre des décisions ? Alors, attendez, Christine Bouillot et puis après Benjamin Lucas.
Enfin, là, on a aussi un double phénomène sur cette séquence-là actuellement. C'est aussi la pression médiatique. Donc, ce qui se passe, c'est que tous les médecins sont sollicités actuellement pour savoir quelle est la meilleure option pour éviter, on va dire, une propagation d'un variant anglais dont on ne sait encore pas exactement quelle est sa proportion sur les contaminations actuelles. Visiblement, c'est extrêmement compliqué. Et il y a en plus des disparités régionales. C'est-à-dire que visiblement, on serait à 3% en Île-de-France. Et si je prends ma région, on est aux dernières nouvelles hier, donc je ne peux pas être plus précise, on n'est à même pas 1,02% de taux de variant anglais dans des tests qui ont été effectués de manière discriminatoire. Donc, Aujourd'hui, on a tous ces médecins qui sont sollicités pour savoir sur quoi. Et puis, en parallèle, vous avez tous ces ministres qui sont aussi sollicités et qui chacun défend sa corporation. Et donc, on en arrive à cette fameuse cacophonie où je peux concevoir, Gilles Platret, que le citoyen lambda, les élus locaux qui doivent organiser la vie publique, ne s'y retrouvent pas. Parce que, très sincèrement, Valérie, moi, je reçois 10 coups de fil par jour où on me demande à moi, Christine Bouillot, si j'ai des nouvelles du confinement qui doit démarrer jeudi. Donc, c'est quand même lunaire. Donc, on est vraiment dans une situation où tout le monde est dans l'attente et ça devient schizophrène et la cacophonie, elle est là aujourd'hui. Sauf qu'il y a des décisions à prendre. Moi, je prendrais juste l'exemple des vacances scolaires. Ouais. Aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi sur l'organisation des vacances qui commence pour la zone de Bordeaux dans 10 jours.
Ouais. Non, mais c'est vrai, on a une cacophonie réelle.
Non, il y a plusieurs débats dans le débat. Oui, c'est aux politiques et à la démocratie de décider. Moi, je suis pour que ce soit le Parlement, pour que ce soit les gouvernants. Je suis même pour changer de gouvernant, puisque j'essaye de contribuer avec d'autres à ce que nous construisions une alternative à gauche pour 2022. Donc, bien sûr, oui, la démocratie, évidemment, ne doit pas... Et oui, on doit voter au mois de juin. Et oui, il faut préserver à tout prix la démocratie. On doit pouvoir le faire comme d'autres grandes démocraties dans le monde. En revanche, sur l'opinion, sur l'avis, sur faut-il confiner ou pas, moi, je vais vous parler d'un exemple tout simple. Il s'agit de mon petit frère. Mon petit frère, il est étudiant hospitalier et pour 350€ par mois, il bosse dans une unité Covid. Donc moi, quand mon petit frère, qui a fait des études de médecine, ce qui n'est pas mon cas, qui est tous les jours confronté à la réalité du Covid, pour que dalle, pour gagner rien du tout, quand lui me dit « là, il va falloir confiner », là, on s'en sortira pas. Ben, moi, j'ai envie de l'écouter, lui, plutôt qu'un café du commerce géant ou des élus qui doivent prendre les décisions, mais qui doivent appuyer leurs décisions sur la science, sur la rationalité, etc. Et ça, ça me paraît essentiel. Parce qu'on va encore applaudir tous les soirs à 20h les soignants et dire « Oh, les pauvres, ils ont un métier difficile ». Et puis là, on va dire « Oui, mais alors quand même, il faudrait privilégier qui l'économie, qui ceci, etc. » Voilà. Non, à un moment donné, il y a des décisions à prendre. Il faut qu'elle soit prise dans la transparence, avec un processus démocratique. Moi, je crois que c'est au Parlement de voter. On a élu des parlementaires, ils rendent des comptes, ils devront rendre des comptes, et on pourra en changer, d'ailleurs. Chacun pourra, lors des prochaines élections législatives, décider de balancer son parlementaire pour en prendre un autre. Et d'ailleurs, je souhaite qu'il y ait une autre majorité. Mais en l'occurrence, il faut là aussi ne pas mélanger tous les sujets. Ce sont deux choses différentes. Oui, la démocratie, oui, les libertés, évidemment. Et moi, je trouve que, d'ailleurs, on accepte trop vite un certain nombre de vraies régressions en termes de démocratie et de liberté au quotidien. Mais la question sanitaire, elle doit être éclairée par ceux qui sont spécialistes de la question sanitaire et pas, moi je n'ai pas d'avis à avoir, enfin voilà, moi je ne suis pas spécialiste aujourd'hui du développement pandémique dans ce pays et dans aucun autre d'ailleurs.
Moi j'ajouterais une chose à tout ce qui vient d'être dit, amusons-nous et faisons quand même un peu de décryptage politique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu des fuites de l'Élysée et avec des fuites qui disaient que le président allait s'exprimer mercredi, qu'on allait vers un reconfinement et c'était à la une du JDD, dimanche. Et on le sait, parce qu'il l'a déjà dit à des proches, le président Macron déteste se faire dicter sa politique ou que les journalistes annoncent des décisions avant qu'il ne les exprime. Donc, qu'est-ce qu'il fait le président Macron? Devant les sondages, parce qu'il y a eu des sondages hier où on sait que 50% des Français sont contre ce confinement, et là, il fait de la politique et il recule. Et il dit, nous ne sommes pas à une semaine près.
Oui, c'est Delfrécy qui dit ça après avoir dit que c'était très grave.
Parce qu'il a reçu un coup de fil de l'Élysée.
Il a dû se faire remonter les bretelles.
Mais évidemment. Et donc, c'est là où, à nouveau, il y a une cacophonie entre les annonces, entre les fuites.
Qui rajoute de l'angoisse, d'ailleurs. À l'angoisse sanitaire, on rajoute de l'angoisse qui est insupportable pour tout le monde.
Exactement. Et les Français vivent en ce moment, et ces jours-ci en particulier, avec l'épée de Damoclès du reconfinement sur la tête. Ils ne savent pas comment ils vont s'organiser à nouveau. Donc,
École, pas école.
Et où est l'anticipation? Alors là, je donnerais simplement raison au gouvernement et au président de la République sur une chose. C'est que si on confine maintenant, il faut être très prudent parce qu'avec le variant qui arrive avec un pic au mois de mars, avril, ça veut dire qu'on confine maintenant, mais qu'on confine maintenant pour 2 mois minimum. Ouais. Et là, ce sera insupportable pour tous les Français. Donc, le président n'est pas ennemi de ses propres intérêts. Il fait de la politique et il se dit là, j'ai toute l'opinion contre moi.
Christine Bouillot.
Oui, et puis de quel confinement on parle aussi.
Bien sûr,
voilà,
c'est je pense que c'est là-dessus aussi.
Chacun, alors c'est merveilleux. Hein, moi, je rentre dans un commerce. Chacun, il voit midi à sa porte et se dit bon bah oui, effectivement, il faut fermer les écoles, mais pas les commerces. Et puis après, on nous dit non, mais il faudrait pas fermer, confiner le week-end, mais pas la semaine. Et puis donc, je pense que de toute façon, le chemin est entre les deux et que malheureusement, ce qui est terrible, c'est que là, le tunnel, il est rallongé de quelques semaines. sur la sortie d'une éventuelle crise grâce à l'arrivée des vaccins qui arrivent, comme on le sait, de manière plus ou moins chaotique. Donc c'est vrai que pour l'exécutif, donner le sentiment de prendre des nouvelles, enfin, vous avez vu quand même le basculement entre dimanche et aujourd'hui, ouais, où on était effectivement sur un confinement qui allait démarrer incessamment sous peu, des jeudis, des week-ends, et puis là on commence à nous dire bon, finalement on va se laisser le temps, le temps d'attendre. Ouais. Donc je comprends que le citoyen lambda qui entend tout ça ne sait plus, et alors l'économie encore plus, parce que du côté des entreprises, c'est aussi ça qu'il faut réfléchir. Ouais. C'est les entreprises, elles se demandent aussi comment organiser la vie en interne avec des annonces qui n'en sont pas, en fait, aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est mal barré.
Un auditeur nous dit, attendez votre intervenante. Donc Patricia nous explique que M. Macron gère une pandémie depuis 12 mois par sondage et suivant son humeur, ça choque personne.
Non, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout ce que j'ai dit.
Vous dites qu'il a vu un sondage et il a reculé.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit simplement qu'il a, il n'a pas pris sa décision, et parce qu'en effet, ça a été fuité dans la presse et qu'il est maître des horloges et maître du temps.
Enfin, c'est un peu dérisoire de dire qu'il n'était pas content qu'on lui ait grillé la politesse.
Il faudrait que l'entourage du pouvoir, qu'un certain nombre de ministres et de parlementaires de la majorité, j'en profite pour le dire, arrête de se comporter comme des enfants. On l'a dit, ce qui ajoute de l'angoisse à nos compatriotes, c'est cette incertitude permanente. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas prévoir, c'est vrai. Le variant, on ne l'avait pas prévu. Il y a des évolutions, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne maîtrise pas encore avec ce virus, malgré les mois. Mais il faut qu'ils arrêtent, ceux qui vont parler au JDD en off, ceux qui vont dire des choses sans savoir. Alors, il faut qu'il y ait une parole qui soit maîtrisée.
Mais
c'est quand même important aujourd'hui.
Vous avez plus, ça. Alors, mis de l'ordre. Et même dans les gouvernements précédents, et à l'Élysée, il y a toujours eu des fuites, il y a toujours des conseillers pour parler à des médias.
Oui, mais vu la situation, la gravité, peut-être qu'il serait bien, je le dis vraiment, qu'un certain nombre de proches du pouvoir arrêtent de se comporter comme des gamins.
On va y revenir, et Gilles Platret, vous réagirez justement à ce... À ce pas en avant, pas en arrière du Conseil scientifique et d'Emmanuel Macron. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, avec Christine Bouillot, Gilles Platret, Benjamin Lucas et Patricia Balme. Alors, Gilles Platret, je voulais vous entendre sur ce va-et-vient d'Emmanuel Macron. Il devait s'exprimer, il ne s'exprime plus. Le professeur Delfraissy nous dit que la situation est grave dimanche et lundi, il n'y a pas d'urgence. C'est de la politique que fait Emmanuel Macron ?
Écoutez, je ne sais pas si ça en est, mais si c'est le cas, c'est vraiment mal placé. Moi, j'ai plutôt l'impression d'un pilotage à vue, très honnêtement. La situation est compliquée pour les gouvernants. On va peut-être poser le débat d'abord en rappelant ça, parce que c'est effectivement une complexité sans nom que de gérer une crise épidémique qui visiblement est en train de tourner en rond, c'est-à-dire que le virus lui-même fait sa propre police et il devient plus fort lorsqu'il est menacé, et tout ça peut tourner encore, hélas, pour un long moment. J'ajouterais une autre chose, parce que moi, ça m'a frappé il y a quelques temps. Le rôle de la justice doit passer partout. On a commencé notre émission d'ailleurs en parlant de la justice sur d'autres affaires. Cela dit, lorsque vous êtes gouvernant et que le matin du jour où vous devez faire une importante conférence de presse, c'était le cas de Monsieur Véran en particulier, vous êtes perquisitionné chez vous parce que vous avez déjà un procès sur le dos, il faut bien comprendre que c'est pas forcément la meilleure manière de gouverner le plus sereinement. Alors, je sais pas comment les choses doivent se faire. Les juges sont dans la loi, ils n'ont pas outrepassé leur pouvoir. Simplement, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi protéger l'action gouvernementale dans le feu de l'action gouvernementale, même si elle doit être jugée à terme, ça, chacun en convient. Donc, moi, je crois aujourd'hui, très honnêtement, qu'on pilote à vue, qu'on a un État qui, ne sait pas où il va, et encore une fois, je peux lui trouver quelques circonstances atténuantes. La seule difficulté que je verrais là-dedans, c'est le mensonge, c'est-à-dire que quand on est pris et qu'on n'a pas d'autre recours, plutôt que de dire la vérité aux Français, on va mentir. On a menti sur les masques au printemps, on ment sur les vaccins maintenant, on ment sur les vaccins. Oui. Nous n'avons pas les vaccins. Oui. Alors, on nous
une parenthèse, chez vous, il se passe quoi à Chalon-sur-Saône?
Chez nous, il se passe ce qu'on a vu dans d'autres régions françaises, dans pratiquement toutes les communes de France. C'est-à-dire qu'on a répondu à l'appel de l'État, on a mis en place un centre de vaccination dans des locaux municipaux, en mettant à disposition du personnel municipal, pas que, il y en a d'autres aussi, mais en tout cas du personnel municipal et intercommunal. Et à partir de là, on nous restreint finalement dans la capacité qu'on aurait de déployer des lignes de vaccination. Parce que au départ, on nous a dit que c'était bon, et on voit bien que ça n'est pas le cas. J'ajouterais même que certains de mes collègues se sont peut-être fait encore davantage avoir, c'est-à-dire qu'on leur a demandé carrément à eux d'organiser les consultations, d'organiser les prises de rendez-vous, avant de les rappeler quelques jours plus tard en leur disant « il faut désinscrire les gens qui se sont inscrits ». Donc nous, c'est géré par une plateforme, et c'est l'État qui gère ça, et ça n'est pas nous. Mais vous imaginez l'état dans lequel les personnes qui avaient la promesse de ce vaccin et qui doivent se désinscrire ou être désinscrites se trouvent. Donc, je pense très honnêtement que le gouvernement pilote à vue et je redis ce que je dis. Je ne crois pas que le conseil scientifique soit un élément rassurant dans ce pays. Voilà. Donc, on a beau me dire que ce sont des scientifiques et qui sont donc bien plus malins que nous tous, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est un va-et-vient permanent parce qu'ils n'en savent guère plus que nous sur les décisions politiques à prendre. En tout cas, le
stop and go. Mais c'est pas leur rôle non plus. Eux, ils donnent un avis et c'est pas eux qui
décident. Il y a toujours eu des conseillers. Le politique a toujours été conseiller. C'est la question de savoir qui prend la décision.
Finissez, Gilles Platré.
Le stop and go de ce week-end montre bien aujourd'hui qu'on a un problème de pilotage. Ça fait des mois et des mois qu'on essaye de dire donner une ligne claire et on essaiera d'y aller derrière. Je parle aussi en tant qu'élu local, secondant les actions de l'État, et on n'y arrive pas. Ça change tous les deux jours et on en est une nouvelle illustration maintenant.
Ouais. Non, mais pour moi, le problème sous-jacent, c'est que les scientifiques ont des opinions contradictoires. Ouais. Et c'est ça le problème. C'est qu'un médecin dit une chose sur un plateau de télévision un jour et un autre dit l'inverse le lendemain. Et là, il y a une cacophonie dans l'esprit des Français. Et le problème, c'est que déjà que les Français n'ont pas tellement confiance dans leur personnalité, dans les hommes et les femmes politiques, mais là, ils n'ont plus confiance non plus dans le corps médical qui se contredit toutes les heures d'un jour à l'autre.
Ouais. Mais je crois que c'est important quand même, parce que c'est le problème, je vois bien le problème que vous soulevez, mais si on n'a pas l'expression de cette pluralité d'opinion, parce que la science, elle est par nature évolutive et elle interprète les choses différemment, si on n'a pas ça, dans l'ambiance complotiste qui est la nôtre, on nous dira, on nous cache des choses, etc. Donc moi, à la rigueur, je préfère voir sur des plateaux des médecins, des scientifiques qui ne sont pas d'accord, que d'avoir des milliers de gens qui pensent qu'il y a des choses qui nous sont cachées, etc. Parce que ça a été dit, le plus gros problème de ce gouvernement, c'est quand il nous a menti, quand il nous a menti sur les masques, quand il nous a menti sur les tests, quand il nous a menti sur les vaccins, quand le ministre de l'Éducation nationale ment sur un certain nombre de choses, raconte n'importe quoi, quand les personnels de l'Éducation nationale qui sont en grève aujourd'hui, et je les soutiens, je serai avec eux à Lille tout à l'heure, se mobilisent pour dire on veut être considérés, quand ils apprennent à la télévision, quand vous avez des chefs d'établissement qui apprennent à la télévision ce qui va se passer dans des établissements scolaires ou sur Twitter, ce n'est pas normal et c'est pas comme ça qu'on fait fonctionner l'éducation nationale d'un grand pays, d'une grande république comme la France. Donc là, le problème, à mon avis, est plus de ce côté-là, dans la gestion de la parole gouvernementale et politique, que dans la parole scientifique.
Oui. Alors, je rebondirai sur une chose que vous avez dit, c'est pas le problème de la parole contradictoire, c'est le problème des annonces qui sont non seulement contradictoires, mais totalement opposées
d'un jour. Qui ajoute de l'angoisse.
Oui, parce que le JDD, c'était... Enfin, on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas eu une confirmation ou en tout cas qu'il y ait une information sérieuse sur cette intervention. Christine Bouillot.
Ouais, il peut aussi y avoir des ballons d'essai, ça arrive très souvent.
Hein, vous avez raison.
On peut aussi dire, on peut voir, parce que comme le disait Patricia, je crois tout à l'heure, le taux d'acceptabilité des Français aujourd'hui sur un possible confinement, troisième formule, est quand même descendu d'un cran. Il y a des manifestations désormais qui apparaissent en Espagne, qui apparaissent au Pays-Bas, de gens qui ne supportent plus la situation dans laquelle on est, qui arrive à sa première année quand même, faut pas l'oublier. Donc je pense qu'aussi il y a des ballons comme ça qui sont lancés dans l'opinion publique pour voir un tout petit peu comment les choses sont vécues, mais c'est vrai que ça rajoute à l'angoisse généralisée, c'est vrai que les décisions sont compliquées parce que malheureusement pour nous tous, le variant anglais, on n'en sait pas beaucoup sur ce qu'il est aujourd'hui et comment il réagit aussi, parce que hier, très concrètement, moi sur le terrain, quand vous rencontrez un virologue en région toulousaine qui ne court pas les plateaux télé, et il vous dit la situation peut être absolument différente, même d'un pays à l'autre. Donc vous voyez qu'on est absolument dans des situations où même le politique ne peut pas dire ce qui marche là va marcher chez nous, et donc par conséquent on peut s'appuyer sur des décisions qui sont à peu près cohérentes. Donc c'est extrêmement compliqué aujourd'hui d'annoncer trois jours avant ce qui va se passer dans les quatre jours qui arrivent. Donc aujourd'hui, on est dans une hystérie collective parce qu'on aimerait savoir à quoi on va être mangé, sauf que personne... On a le sentiment que personne n'en sait rien. Voilà. Et à commencer par le politique, qui lui doit trancher au final.
Alors, un auditeur réagit en disant à quand un vrai débat contradictoire avec des vrais médecins. Alors, j'imagine que pour vous, je signale juste que le professeur Raoult a toujours refusé le débat contradictoire, ainsi que le docteur Fouché, ainsi que tous ces médecins qui sont contestés. Donc, pourquoi pas ? Ça leur a été proposé et ils ont refusé. Je voudrais qu'on parle du vaccin français après les retards de Sanofi. Sanofi, c'est Pasteur qui abandonne son projet de vaccin. C'est un échec total. Écoutez le patron hier de Pasteur, ce qu'il disait, c'est en France, on est toujours content.
Je profite en fait d'être avec vous pour remercier les équipes qui se sont vraiment données pleinement pour faire que cette idée de candidat vaccin qui a germé au début de l'année 2020 puisse aller jusqu'à l'essai clinique. Ils ont travaillé d'arrache-pied. Malheureusement, c'est la loi de la recherche. Quand on démarre un projet comme cela, on sait que on a des chances de réussir, mais on a aussi des chances de ne pas réussir.
Voilà,
c'est très courageux, moi je trouve.
Il n'a pas tort, mais...
Et c'est très courageux, il y a une transparence formidable. Maintenant, c'est aussi l'aveu de la faillite française. Et ça, c'est surtout Pasteur. On est dans le pays de Pasteur. Pasteur a sauvé des vies et l'Institut Pasteur échoue. Et là, j'ai envie de dire, voilà, c'est vrai que dans ce pays, il a vraiment tout fout le camp. Et ça fait partie de cette faillite globale.
Je sais pas s'il faut en tirer une conclusion nationale en défaitiste, parce que ça a été dit, la science et la recherche.
On cherche, on trouve pas toujours.
Des fois, on ne trouve pas. Oui. Après, quels sont les moyens qui sont alloués à la recherche en France? Comment voilà. Par contre, il y a des vraies questions effectivement de souveraineté sanitaire. Enfin, je prends l'exemple. On pourrait élargir sur les médicaments. Aujourd'hui, la plupart de nos médicaments sont fabriqués en Inde. Il y a un vrai sujet aujourd'hui de fabrication des médicaments sur le sol français par des instituts français. Après, moi, je veux pas stigmatiser l'Institut Pasteur, qui a eu quand même de très belles réussites. Par le passé aussi. Bon, bah là, ça n'a pas marché. Je ne suis absolument pas, puisqu'on parlait de compétences scientifiques, moi, je suis absolument pas scientifique, absolument pas compétent pour savoir ce qui a marché ou pas marché. Je trouve ça plutôt honnête de reconnaître et de dire, ce que vous avez dit. Bon, il fallait essayer, ça a été essayé et c'est allé jusqu'à l'essai clinique. Après, voilà, ce qui prouve par ailleurs et ce qui montrera à tous les anti-vax et aux complotistes sur les réseaux sociaux que, il y a quand même des procédures, il y a quand même une science, une recherche qui permet aussi de ne pas mettre sur le marché
n'importe
des choses
quoi,
qui ne seraient pas efficaces quoi. Ou n'importe quoi. Ça me rassure plutôt, moi, d'ailleurs, de ce point de vue-là, pour lever un certain nombre de fantasmes qui existent.
Mais ça interroge sur le financement de la recherche en France, sur le patron de Moderna qui est parti aux États-Unis, qui n'aurait pas eu les moyens, il l'a dit lui-même, de faire ce qu'il a fait en France. Donc ça interroge aussi sur notre recherche. Christine Bouillot.
Oui, en effet, c'est toute la question. Ça fait 15 ans qu'on en parle, de la difficulté de la recherche entre la recherche publique, la recherche privée, que les deux doivent travailler ensemble. Mais moi, je note aussi que dans tout ce débat-là, comme celui de l'enseignement supérieur, en tous les cas, ce qui se passe, c'est le vide abyssal du ministère de l'Enseignement et de la Recherche. En tous les cas, il est absent des écrans radars quand même de manière criante.
C'est vrai.
Et je trouve que c'est un très mauvais signal qui est envoyé à toute la communauté scientifique, déjà, je pense aussi. Ça serait bien d'avoir un boss, quelque part, qui pilote tout ça et qui encourage et qui donne un cap. Et puis pour nos étudiants aussi, qui se lancent dans des études longues, tous ces étudiants qui sont sur des masters, des bacs plus 8, on a des gens brillants et qu'aujourd'hui on voit une ministre qui quand même est relativement transparente ou voire quasiment absente. C'est le constat.
On maltraite nos chercheurs dans ce pays. Les chercheurs, ils sont sous-payés.
Absolument.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup qui s'en vont à l'étranger. Mais c'est indigne la façon dont on traite. On parlait des soignants tout à l'heure, mais alors la recherche dans ce pays et les chercheurs et les chercheuses sont quand même traités très très mal aujourd'hui. Et c'est vrai que l'absence médiatique, politique de Madame Vidal, elle est hallucinante. Et on a dit quoi qu'il en coûte, on va tirer. Vous allez voir, au premier confinement, on va tirer les enseignements de la crise. Qu'est-ce qui s'est passé pour la recherche? Qu'est-ce qui a avancé pour nos chercheurs? Rien. Et honnêtement, aujourd'hui, moi, je leur tire quand même mon chapeau et pour leur courage, parce que franchement, ils ont une utilité à la société qui est colossale et ils sont traités moins que rien.
Oui. Gilles Platret.
Je rejoins complètement ce qu'a dit Christine Bouillot. On a oublié l'ambition scientifique française. Cette affaire-là, elle est nationale. Il y a eu des périodes dans l'histoire contemporaine où on a vraiment appuyé sur la nécessité de la recherche. De Gaulle a eu un vrai programme de soutien à la recherche. Mitterrand, au début, avec Chevènement, a eu un vrai programme de soutien à la recherche et ça a produit des choses intéressantes. Et là, on voit bien qu'on est en perte de vitesse. Et c'est assez dramatique, d'ailleurs, dans le déclassement international de la France. Si vous n'êtes pas en pointe, alors en plus, concrètement, singulièrement dans ces temps de pandémie qui risquent de nous accompagner encore pour de longs et longs mois, voire années, le fait même qu'on se déclasse sur le plan de la recherche est terrible en matière de signes qu'on envoie au reste du monde sur la puissance française ou l'impuissance française. Donc j'allais dire quelque part, il y a des enjeux de métier, ça a été rappelé, mais il y a aussi, et moi je le revendique, un enjeu patriotique. Quand vous aimez votre pays, vous ne pouvez pas le voir se déclasser sans réagir, et ça me fait vraiment mal cette décision. Elle est honnête, elle est scientifique. Je sais que Pasteur travaille sur d'autres projets de vaccins aussi, mais en attendant, ça fait mal et c'est très révélateur sur ce déclassement qui arrive. Il faut redresser la barre. On peut pas avoir une nation moderne et qui brille encore dans le monde si on abandonne l'effort de recherche.
C'est impossible. Est-ce que vous connaissez surtout qu'on a les bonnes écoles. On a de très bonnes écoles.
J'en fais une recherche rapidement. Le budget de l'Institut Pasteur. Le budget de l'Institut Pasteur, parce que moi, je serais plutôt pour leur tresser des lauriers que pour leur tomber dessus comme tout le monde, c'est à peine 300 millions d'euros par an. 300 millions d'euros, c'est quoi? C'est la moitié du budget du Paris Saint-Germain, le club de football. Donc ça prouve là aussi, puisque si on veut, et on parle de souveraineté, et tout le monde se tatoue des drapeaux français sur le torse en ce moment, c'est la grande mode politique de parler souveraineté. Bah là, il y a un enjeu de souveraineté. Là, il y a des millions et des millions à mettre et choisir des priorités aujourd'hui. Par ailleurs, je rappelle, parce qu'il faut quand même aussi défendre la France et ses grands instituts, Pasteur, ça n'a pas un but lucratif. Pasteur, c'est c'est 10 prix Nobel depuis 1907. C'est un
c'est une fierté.
Et avec à peine 300 millions, ça paraît énorme quand on entend, mais voilà, la moitié du budget du Paris Saint-Germain. Donc honnêtement, là, ça doit aussi nous inviter à repenser le sens des priorités dans notre société dans ce moment de crise.
Oui, j'aurais adoré interroger les auditeurs de Sud Radio pour leur demander s'ils savaient que Mme Vidal est ministre de la Recherche.
C'est ce que j'allais poser comme question, parce que je vais vous dire que je suis allée chercher sur Internet, parce que j'ai eu un énorme trou de mémoire sur le nom de cette ministre. Voilà. Donc voilà. Mais c'est vrai, des auditeurs nous disent la recherche, c'est comme son nom l'indique, on cherche, on ne trouve pas toujours. Mais quand on voit l'investissement, l'argent qui a été mis aux États-Unis pour la recherche sur ce vaccin, oui, on peut s'étonner que la Chine, la Russie, l'Angleterre, les États-Unis aient un vaccin et pas la France, qui est censée être la sixième puissance mondiale.
C'est ce que disait De Gaulle, ouais.
On se retrouve dans un tout petit instant avec vous, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous commentons l'actualité. On a beaucoup parlé du vaccin, du reconfinement, et je voulais qu'on évoque le rapport Oxfam qui suggère de taxer les plus riches pour financer la facture du coronavirus. Alors vous avez lu, Patricia Balmes,
en partie de ce
rapport, mais ça fait partie, parce qu'Oxfam... Enfin, n'est pas seul, il y a une partie de la gauche qui plaide pour taxer les plus riches.
Alors, ce que j'ai découvert dans ce rapport, et les chiffres sont très clairs, 7 milliardaires possèdent plus de richesses que 60% de la population mondiale. Ouais. Donc voilà, le sujet est posé. Maintenant, pour aller très vite, et on n'a peut-être plus beaucoup de temps, je dirais la chose suivante. Est-ce que la taxation des plus riches profitera aux plus pauvres? Et vraiment, je pose la question en toute innocence, si je puis dire. Je vais donner un autre exemple. En ce qui concerne la France, et Bernard Arnault est un fleuron de l'industrie française, et c'est un des hommes les plus riches de la planète. Bernard Arnault, qui paye énormément d'impôts dans ce pays, aurait pu s'expatrier depuis longtemps et aller dans des pays où l'impôt n'existe pas, que ce soit le Delaware, Dubaï ou autre paradis fiscal. Il ne l'a pas fait. Pourquoi il est resté en France et pourquoi il paye des impôts colossaux? Donc, je réitère ma question, et vraiment, c'est une question en toute innocence. Est-ce que la taxation des plus riches profitera aux plus pauvres de la planète?
Oui, l'ONG cite en exemple l'Argentine qui a adopté en décembre une loi instituant un impôt extraordinaire sur les grandes fortunes qui pourrait rapporter 3 milliards de dollars pour financer la lutte contre les effets Covid. En France, l'impôt sur la fortune a été supprimé, il est exclu. Il a été remplacé par l'IFI. Absolument. Mais, et en plus, il y a des choses que font certains grands patrons qu'on ignore, c'est-à-dire sur du financement, sur le Covid en particulier, je sais que...
Pour lesquels ils bénéficient de réduction d'impôts.
Oui, mais enfin, LVMH achète 500 respirateurs pour donner aux hôpitaux ou faire venir des masques...
Oui, mais alors, moi, je pense que ce n'est pas à ceux qui ont l'argent de décider ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, parce que là, c'est bien, ils donnent, mais moi, je préférais que ce soit la puissance publique et donc la démocratie, les représentants de nous, citoyens, qui décident où on met l'argent ou pas. Deux remarques sur cette affaire de deux natures. D'abord, sur l'urgence. On n'arrête pas de nous dire, depuis le début de cette crise, on est en guerre. Moi, c'est pas mon vocabulaire, mais prenons-le. On est en guerre. Dans une guerre, qu'est-ce qu'on fait? On met toute l'économie, on met tout au service de la victoire. Si on veut tout mettre au service de la victoire dans cette guerre qui est sanitaire et sociale, alors il faut, oui, faire contribuer exceptionnellement beaucoup plus les plus riches, comme on le fait dans toutes les guerres ou dans toutes les périodes, voilà, où on met toute l'économie, tout est mis à contribution pour construire des tanks, etc. Bah là, il faut tout mettre à contribution pour réparer les dégâts sociaux. Il va y avoir 10 millions de pauvres avec cette crise. Et vous l'avez dit, il faudra, pour ceux, c'est le rapport d'Oxfam aussi qui dit ça, il y a les plus riches qui ont reconstitué leur richesse, pour les plus pauvres et ceux qui ont le plus perdu, il faudra une décennie pour revenir au niveau de vie antérieur. Une décennie, c'est énorme. Ça, c'est la première remarque d'un point de vue d'urgence. Et puis ensuite, ce que nous révèle ce rapport, mais pour le coup, Oxfam produit des rapports chaque année, et de ce point de vue-là, les plusieurs points qui se suivent, ça fait une ligne, et les choses, elles sont maintenant ancrées dans la réalité, c'est qu'il y a quand même une indécence, vous l'avez dit, une indécence. Moi, qui ai des inégalités de revenus, qui ai des riches et qui ai des pauvres, c'est la société, j'allais dire, c'est comme ça. Mais je ne suis pas pour dire tout le monde doit gagner la même chose. Mais quand même, qu'est-ce qui justifie moralement, je vais me placer d'un point de vue moral, qu'est-ce qui justifie moralement qu'un individu gagne 500, 600, 1000 fois plus qu'un autre, au regard, je termine, au regard de sa valeur dans la société. Donc moi, je plaide pour qu'on partage. Il y a pas, il y a une indécence de l'ultra-richesse, qui est aujourd'hui scandaleuse. Et c'est pour ça que nous proposons, par exemple, le revenu universel d'existence, qui est un instrument pour partager et répartir cette richesse en abondance. Parce qu'on nous parle sans cesse de ruissellement, bah là, il y a un moyen, il y a un motif pour faire ruisseler. Ce qu'on nous dit, et je termine d'un mot là-dessus, on nous dit toujours, quand on demande des droits sociaux supplémentaires, des conquêtes, etc., avant de partager le gâteau, il faut le faire, il faut le produire. Bah là, on est devant la devanture de la pâtisserie, et franchement, ça déborde de crème. Donc là, on a de quoi partager quand même tout de suite, maintenant.
Est-ce que ça, déborde vraiment de crème ?
Ah bah oui, les chiffres, ils sont éloquents quand même sur ce que possède un petit nombre par rapport à la grande masse des habitants de cette planète.
Je voudrais juste une petite rectification à ce que vous avez dit. Lorsque j'ai expliqué l'un des points du rapport Oxfam, je n'ai pas parlé d'indécence. J'ai exprimé un point.
Oui, non, moi j'en parle.
Que vous en parliez, mais moi je n'ai pas parlé d'indécence. Simplement, et je connais le discours de la gauche et depuis François Mitterrand, et on oppose les riches et les pauvres. Et ça,
non, au contraire, je ne les oppose pas, je propose une société du partage.
Oui, mais donc, en les opposant, la réponse, c'est que les riches vont partir.
Et la dénonciation permanente des riches, le mot riche est devenu une insulte en France, depuis François Mitterrand et depuis le pouvoir socialiste, véritablement.
On n'est pas malheureux, on ne va pas nous faire croire qu'on est malheureux quand on a la fortune de M. Arnault. Honnêtement, je pense qu'il peut donner quelques
mots. Je parle de division de la société française. Je ne parle pas de malheur.
Elle existe dans les faits.
Mais
moi, je ne l'exacerbe pas.
L'inégalité existe mondialement dans toutes les couches de la société.
Et on peut considérer qu'elle est moralement pas juste.
Alors, Christine Bouillot.
De toute façon, alors le creusement des inégalités entre les très très riches et les très pauvres, je dirais, c'est pas nouveau. Hein. Les rapports de l'Oxfam, à chaque fois que le sommet de Davos s'ouvre, puisque c'est le cas au jour cette semaine, fait exactement le même constat d'année en année, je dirais. Donc il y a rien de nouveau. Ce qui est choquant aujourd'hui, c'est qu'effectivement, enfin ce qui est choquant en tous les cas, ce qui choque l'opinion publique et qui va choquer l'opinion publique internationale, faut pas se leurrer, c'est que cette crise qui va plonger des millions de gens dans tous les pays, de tous les continents, dans une grande précarité. Effectivement n'atteint pas les ultra-riches. Donc je dirais que là maintenant, la balle est dans les, on va dire, dans les gouvernants, enfin des nations, hein, c'est de savoir comment on fait effectivement redescendre tout ça de manière à ne pas avoir une explosion, parce que à la sortie, vous aurez inévitablement une explosion, qu'elle soit d'ordre démographique, qu'elle soit d'ordre sécuritaire, enfin, ça ne peut pas continuer. Si vous plongez des millions de gens comme ça dans la grande précarité et dans la difficulté, vous pouvez pas en sortir grandi. Donc, de toute façon, il faudra trouver une solution et il va falloir que les gens se mettent autour de la table pour éviter ce genre de choses. Enfin, en tous les cas, pour essayer de réduire. Je vois pas où est le... Je veux dire, personne n'a réussi à régler le problème jusqu'à présent. Donc, c'est ça qui est compliqué aujourd'hui et c'est ça qui interroge sur la décision politique qui est aujourd'hui noyée par, effectivement, l'optimisation, on va dire, l'hyper-richesse. Ces hommes-là sont plus riche et puissant que certains États, quand même, faut pas l'oublier.
Mais est-ce que c'est pas un peu primaire et basique de dire on va faire payer les riches, je veux dire
ça c'est
François
sûr que
François Pinault,
c'est pas comme ça que ça va se régler. Pas comme ça que ça se réglera. Ça, c'est clair.
Gilles Platret.
Moi, il faut regarder deux phénomènes en fait qui sont en train de se conjuguer et qui effectivement peuvent devenir, Christine Bouillot l'a laissé entendre, particulièrement explosifs. Parce qu'ils le sont en eux-mêmes. D'abord, depuis quelques décennies, non seulement les écarts augmentent entre les plus riches et les plus pauvres, mais surtout la classe moyenne, qui était grosso modo le pivot de nos sociétés, qui garantissait l'équilibre avec la promesse qu'on pouvait un jour, quand on était un peu dans le bas de l'échelle sociale, je ne mets pas du tout de jugement de valeur dans ce que je dis, mais sur l'échelle des revenus, qui permettait un jour d'y accéder et donc de vivre décemment. Cette classe moyenne est complètement écrasée depuis quelques décennies. Et ça s'accélère. Pourquoi ? Parce que le travail aujourd'hui n'est plus assez rémunérateur par rapport à ce qu'il a été dans des périodes de croissance ces décennies passées. Donc ça, c'est le premier phénomène. Et puis, il y en a un deuxième qui est terriblement inquiétant. C'est, alors prenons l'exemple français que je connais un petit peu mieux, je peux même parler évidemment de l'exemple local, mais nous avons une augmentation vertigineuse du nombre de personnes en France qui viennent de passer sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, ce sont 10 millions de Français qui sont sous ce seuil, c'est-à-dire qu'en à peine un an, 1 million supplémentaire de pauvres dans ce pays. Ça correspond, vous pouvez aller interroger, par exemple, je l'ai fait la semaine dernière, les bénévoles des Restaurants du Cœur, et vous diront que par rapport à pareille année l'année dernière, on est à 10% de personnes bénéficiaires supplémentaires. Et je ne parle même pas de ceux qui n'osent pas encore saisir la main que nous leur tendons et qui s'enfoncent inévitablement. Donc, on a des phénomènes absolument dramatiques sur le plan humain. Il y a un mécanisme de contribution et de répartition des richesses, il existe, il est sans doute assez injuste aujourd'hui. Simplement, il ne faut pas se focaliser sur Arnaud et compagnie. Je veux dire, bien sûr qu'ils doivent contribuer, et vous l'avez rappelé, Arnaud ne fuit pas ses obligations vis-à-vis du fisc français. Il est encore contribuable dans ce
encore
pays.
Encore heureux. Vous avez des milliers de gens, mais vous avez des milliers et des millions de gens qui payent leurs impôts de façon tout à fait réglementaire.
Mais
on leur passe pas des leurs. Oui, mais attendez,
il a les moyens, parce qu'il aurait les moyens. Laissez
terminer,
Gilles. Tu payes ses impôts.
C'est quand même incroyable. Ouais. C'est quand même le problème de la gauche. Dès qu'on parle des riches, vous excitez. Parce que si un jour on pouvait parler quand même tranquillement de ce sujet,
laissez Gilles Plâtrer terminer.
Ça serait quand même pas
mais
mal.
Mais il aurait pu partir et quitter la France. Il y a des entreprises qui ne payent pas en France leurs impôts.
Bien sûr, il faut aller les chercher. Il faut faire
Arnaud n'est sans doute pas celui qui est le plus à blâmer dans ce sujet-là. Mais simplement, je le dis.
Pas non plus le plus à plaindre, monsieur.
C'est normal que je penche plus de ce côté-là. C'est que la première des garanties, c'est faire en sorte que des gens qui travaillent, d'abord retrouvent un boulot quand c'est pas le cas, et surtout quand ils travaillent, qu'ils arrivent à gagner leur vie avec leur travail. Absolument. Or, aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas.
Aujourd'hui, mais ça, c'est fabuleux avec la droite, votre réponse, c'est on va faire de la croissance et de l'emploi. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Parce que il faudra des années et des années pour reconstituer. Là, après, avec cette crise, il faudra des années, des décennies.
Mais qui crée des emplois, Bernard Arnault?
Non, c'est l'activité, c'est la richesse qu'il a qui crée des emplois. C'est pas lui. Si vous n'avez pas Arnault, vous avez sans doute un numéro 2, un numéro 3, un numéro 4 qui créera autant d'emplois que lui, avec autant de talent que lui. Moi, je crois pas à l'homme providentiel, ni en politique, ni en économie.
Il crée de l'emploi.
Simplement d'une chose, je veux dire de façon très pragmatique, c'est une réponse trop simple de dire oui, on va créer de l'emploi, vous verrez. Ça fait des années que des responsables politiques disent vous allez voir, on va créer de l'emploi et tout va s'arranger. Ça ne marche pas. Donc en attendant, oui, il faut créer de l'emploi. Mais comment déjà la richesse qui est là, on la partage. Et moi, je pense, je vais dire un gros mot, au partage du temps de travail, au partage de la richesse, au revenu universel d'existence, qui sont des moyens maintenant, tout de suite, avec des étapes évidemment, de partager ce qui existe déjà et ce fameux gâteau-là, dont on voit qu'il a encore, certains ont encore de belles grosses parts devant eux.
Je vais vous donner un exemple de partage, et notamment chez Bernard Arnault. Les gens qui sont embauchés dans le groupe Bernard Arnault sont embauchés à un salaire minimum extrêmement élevé rapport à. Et bien c'est peut-être aussi une façon de partager.
Mais c'est pas lui de décider, plutôt que de payer encore
des impôts à l'État, et on ne sait pas où ira l'argent de ces impôts.
Je peux vous le dire, je vous parlais tout à l'heure de mon petit frère qui gagne 350 euros pour être interne en hôpital. Bah, peut-être qu'on pourrait doubler son salaire.
Bernard Arnault paiera plus d'impôts, on donnera à votre petit frère 300 euros de plus. Je n'en suis pas.
Et je peux vous dire que peut-être du coup on acceptera enfin de donner le RSA aux jeunes. Enfin, il y a tout un nombre de dispositions là qui sont urgentes, qui sont vitales. Et puis oui, il faut faire rentrer de l'argent.
Ça ne marche pas fiscalement, malheureusement.
Allez, mot de la fin pour Marie-Hélène, notre autorité. À Bernard Arnault, pour info, il fait travailler combien de personnes extraordinaires? La gauche, on tape sur les riches trop facile.
Taper sur les pauvres, c'est vrai que c'est beaucoup moins en vogue en ce moment.
Non, mais c'est pas forcément. C'est pas ce qui est en face.
Ce qu'on disait, la gauche, la droite, elle stigmatise les allocataires du RSA en permanence.
C'est fini. Merci à vous. On se retrouve demain pour d'autres infos. Bonne journée sur Sud Radio.